monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous. Petronie Vaweka, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec Le Monde au Féminin de VOA Afrique.
Bonjour, je suis Vaweka Petronie Rutaya. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis la coordonnatrice des centres Femmes engagées pour la paix en Afrique. Mes activités principales pour le moment consistent à former des jeunes femmes dans la gestion des conflits et dans la médiation afin de parvenir à une paix durable.
Alors, vous vous êtes rendu à New York notamment pour vous exprimer devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pouvez-vous nous expliquer d'où est venue cette demande, dans quel cadre et à propos de quoi?
J'ai été invitée à venir à New York et pouvoir intervenir devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette invitation m'était parvenue par la présidence de Malte et je devais intervenir sur l'implication de la femme dans la recherche de la paix dans le pays des Grands Lacs.
Vous avez donc mis l'accent sur la participation des femmes dans les processus de paix. Donc, comment s'organise-t-elle dans l'est de la République démocratique du Congo, troublée par la violence armée? De quelle manière participe-t-elle aux médiations de paix?
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les femmes sont certes des victimes, mais elles sont aussi des personnes qui cherchent la paix. Parce que ce sont elles qui souffrent le plus avec les enfants. Et elles s'impliquent à la recherche de la paix à travers la médiation, avec les groupes armés, à travers la recherche de réconciliation et de cohabitation pacifique avec les communautés, et elles approchent aussi le gouvernement pour faire le lobby qui peut servir à soutenir les femmes dans leur action.
Quelles recommandations avez-vous fait lors de votre présentation devant le Conseil de sécurité?
Les recommandations ont surtout été portées à ce que tous les instruments de recherche de paix qui existent déjà dans les pays des Grands Lacs, par exemple la conférence internationale de la région des Grands Lacs, c'est un instrument qu'on doit vraiment soutenir et accompagner parce que cela met en présence tous les chefs d'État des pays des Grands Lacs. En second lieu, j'ai demandé à ce qu'on puisse soutenir les femmes pour qu'elles puissent participer au processus de paix. Vous savez qu'en Afrique, les femmes n'ont pas de place. Et même à la table des négociations, on n'implique pas suffisamment les femmes. Ce sont les hommes qui font la guerre et c'est eux qui vont dans le processus de paix. Mais maintenant, nous voulons que de plus en plus, il y ait des femmes qui puissent y participer. Moi, par exemple, ça fait des années que je suis dans le processus de paix. Mais c'est pas suffisant. Nous devons avoir de plus en plus de femmes à la table des négociations.
Comment se traduit plus précisément la participation des femmes dans les processus de paix au niveau local, national et régional?
Au niveau local, l'implication de la femme, c'est surtout dans leur communauté respective. Et aussi, vous savez que les groupes armés qu'on appelle des autodéfenses dépendent quelquefois de leur communauté. Et c'est là où les femmes jouent un rôle capital, parce qu'à l'intérieur de leur communauté, elles sensibilisent pour qu'il y ait des sentiments de cohésion et de communauté. Au niveau national, nous les femmes qui travaillons dans la médiation, nous faisons des approches auprès du gouvernement, à travers les lobbies, à travers de visites. Et là, nous essayons de parler avec le gouvernement pour qu'il y ait un appui sur les femmes et pour que le gouvernement puisse avoir un regard responsable sur tous les problèmes qui se passent au niveau des provinces, au niveau des localités. Au niveau international et régional, là, nous avons des rencontres avec les femmes de tous les pays des Grands Lacs. Et ensemble, nous partageons nos expériences et nous voyons ensemble comment les femmes peuvent se constituer en réseau et travailler ensemble pour que la paix revienne dans les pays des Grands Lacs.
Petroni Vaweka, qu'attendez-vous de la communauté internationale?
Ici, je parlerai des minerais. Tout le monde sait que le monde entier, la technologie a besoin de minerais qui sont en RDC. Mais ces minerais ne sont pas exploités au profit de la population. Il y a le pillage, il y a un vrai désordre dans cette exploitation. Donc ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on puisse ouvrir un marché libre et un marché juste pour que ces minerais puissent profiter dans la technologie du monde, mais aussi que cela apporte le bonheur à la population, parce qu'à cause de ces minerais, ces populations sont tuées, sont déplacées de chez eux, les femmes sont violées et beaucoup de malheurs dans les pays des Grands Lacs et surtout dans la République démocratique du Congo.
Est-ce que les groupes de femmes agissant pour la paix disposent d'appui suffisant pour développer leurs activités?
Les femmes se battent. Mais étant donné qu'il y a eu beaucoup de destructions, et je connais des femmes qui sont déplacées. Moi aussi, je suis une personne déplacée de l'Est, parce que maintenant je suis à Kinshasa. Mais j'ai dû déplacer ma famille à cause des guerres. Donc nous les femmes, nous sommes vulnérables. Et même quand nous voulons travailler pour la paix, pour la médiation, il nous manque souvent des moyens adéquats pour que nous puissions remplir notre mission. Nous avons vraiment besoin d'un appui en technologie et nous avons aussi besoin d'appui financier. Parce que vous savez que la guerre coûte cher, mais la résolution des conflits et la médiation a encore un prix plus élevé.
Quel est l'impact de la présence des groupes armés sur les populations au plan social et économique?
Mais c'est la catastrophe. À cause des présences de groupes armés internes et externes, nous avons 7 millions de déplacés à l'intérieur de notre pays. Ce sont des personnes qui ont quitté leur village, qui vivent dans l'errance, qui vivent dans les camps de déplacés. Et tout cela fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a des filles qui se livrent à la prostitution à l'âge de 10, 12 ans et tout le malheur qui s'ensuit avec les risques de maladie. Et surtout, sur le plan social, les enfants qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas une bonne éducation, les enfants qui naissent dans les camps de déplacés, qui naissent pendant les guerres et qui grandissent pendant les guerres, à quel avenir ils peuvent s'attendre? Et sur le plan économique, c'est vraiment la destruction. Parce que les populations qui vivaient de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, de leur petit commerce ne peuvent plus l'exercer. Ce qui fait qu'il y a une grande population de l'Est qui sont vulnérables, qui n'ont plus de quoi se nourrir, se vêtir et même se loger. Et ils n'ont plus les moyens de survivre ni de subvenir aux besoins de leur famille. Donc cette situation, je ne pense pas qu'un programme humanitaire pourrait apporter des solutions. La seule solution, c'est la paix.
Comment lutter contre l'impunité dans l'Est de la République démocratique du Congo?
C'est vrai que l'impunité bat son plein. Je sais que, parce qu'il y a plusieurs associations de femmes qui luttent sur plusieurs fronts. Il y en a d'autres qui sont, par exemple, sur les violences sexuelles. Et à travers leur action, elles aident aussi les victimes à pouvoir identifier les auteurs et les amener devant la justice. Nous avons aussi des femmes qui sont des avocats, des femmes qui sont des magistrats et des femmes dans la justice et qui travaillent aussi afin que les auteurs de crimes ou de violences puissent être traduits devant la justice. Et même au niveau de la police nationale, il y a un volet spécial là où surtout les femmes et même certains hommes ont été formés pour pouvoir accompagner les victimes. Donc on ne peut pas dire que les crimes de viol ou d'assassinat ne seront jamais poursuivis. Il y a déjà quelques-uns qui répondent de leurs actes. Bien sûr, il faut continuer à ce qu'il y ait un système qui puisse faire des enquêtes et amener les auteurs d'assassinats et de viols devant la justice. C'est un effort à faire, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une institution et que l'impunité règne à 100%.
Et comment démêler la situation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, selon vous?
D'abord, il faut qu'on puisse faire une pression pour le respect des accords. Ça, c'est d'abord très important. Mais vraiment, nous avons besoin de l'implication de la communauté internationale. Parce que le minerai naturel, c'est ça qui est à la base de toutes ces tueries, de tous ces conflits, de tous ces différends. Donc il faudrait qu'on arrive dans le plus bref délai à organiser le marché de minerais. Que ça ne puisse pas servir seulement aux pilleurs et que ça soit vraiment la libre-échange. Comme ça, tout le monde en sortirait gagnant-gagnant. Parce que ces minerais de sang, il faudrait que ça redevienne un minerai de vie et de bonheur pour toute la population des pays des Grands Lacs.
Petronille Vaweka Rutaya, médiatrice en résolution des conflits en République démocratique du Congo, lauréate 2023 du prix Women Building Peace de l'Institut des États-Unis pour la paix. Merci beaucoup pour cet entretien avec le monde au féminin de VOA Afrique. À très bientôt.
Au revoir.
Dans une mise en demeure, la République démocratique du Congo a accusé Apol d'utiliser des minerais provenant de mines où les droits humains sont violés. Le géant de la tech américain exige que les unités traitant les minéraux utilisés dans ses produits subissent un audit. Selon la Commission de sécurité et d'échange, ces 10 dernières années, Apol a retiré plus de 160 fonderies et raffineries de sa chaîne d'approvisionnement. Selon The Enough Project, les sites de minerais sont souvent contrôlés par des groupes armés qui forcent des civils à travailler. Et Global Witness a accusé le programme commun de l'industrie pour la traçabilité et le devoir de diligence de contribuer au blanchiment de minerais liés à des conflits et au travail des enfants. En visite à Washington, Sarah Ntambwe, coordonnatrice de Change Your World à Goma, dans le Nord Kivu, dresse un plan de la situation de ces enfants victimes de la guerre et ses corollaires, notamment l'exploitation minière.
Quand il y a une guerre, les enfants sont de premières victimes parce qu'ils sont intégrés dans les groupes armés, ils sont séparés de leur famille, ils sont de blessures émotionnelles non partagées. Il y a vraiment autant de maux qui retombent sur les enfants de part de leur vulnérabilité d'âge et de leur personne physique. Malheureusement, depuis 2018, nous avions identifié plus de 75% des cas de ces enfants victimes trouvent refuge dans des grandes villes. Donc, d'un moment où il a l'opportunité soit de s'échapper des groupes armés ou s'ils étaient exposés à des exploitations dans les carrés miniers, ces enfants finissent par avoir une opportunité pour fuir et se retrouvent, ne peuvent que trouver refuge dans la rue parce qu'il n'y a pas des espaces sûrs qui pourront les accueillir, non seulement les informer sur leurs droits, mais identifier pour leur remettre dans leurs droits et comprendre qu'il y a un défi sur notre programme social au niveau national et je pense dans plusieurs pays d'Afrique qui ne tiennent pas compte de cette vie qu'on est en train de perdre sans protéger les enfants avec ces cycles de conflits qui rongent nos pays. Plusieurs pays sont affectés par ce problème de conflit en Afrique et qui malheureusement expose des enfants, et c'est l'avenir de l'Afrique qui est exposé. Nous ne pouvons pas parler de ces cycles de conflits sans parler de minerais et d'exploitation illicite de nos minerais. Vous savez les exploits qui produisent ces minerais dans le monde actuel, la nouvelle technologie et l'informatisation de tous ces grands miracles que nous pouvons voir. Mais ces pays qui sont en train de fournir ces minerais sont des pays plongés dans une pauvreté. Et nous avons des exemples, des témoignages. Nous avons des enfants qui ont été exploités des années et des années et qui, par chance, arrivent par s'échapper, mais ils s'échappent en n'étant plus enfants. Émotionnellement, ils ont subi des violations graves. Jusque-là, nous nous sentons presque seuls à se battre pour faire entendre la voix de ces enfants. C'est une très belle opportunité qu'enfin le gouvernement ait aussi la voix pour citer quelques institutions et que, étant de plus grands acheteurs de minerais, quelque part, ils sont en train de contribuer. Je pense qu'il est temps que les institutions gouvernementales s'associent à des structures qui travaillent sur la protection des populations qui vivent autour et dans les carrés miniers pour leur présenter les vrais défis qu'il y a et qu'ensemble on puisse avoir des résolutions pratiques sur la protection des populations vivant dans des carrés et autour des carrés miniers et qu'il y ait de règlements, de conventions, des protections des enfants dans les carrés miniers. La place de l'enfant, c'est dans sa famille et à l'école. Mais nous pouvons voir à l'est du pays, à Roubaix, où à chaque fois que nous sommes sur terrain, vous êtes entouré des enfants qui sont là en train de chercher de minerais. Et vous allez vous dire que sur toute cette chaîne de valeur, qu'un acheteur vienne acheter et qu'il se dise qu'il n'est pas impliqué dans l'exploitation, ça c'est faux. D'une manière ou d'une autre, vous êtes impliqué parce que ça revient aussi des droits aux acheteurs de comprendre comment est-ce que j'arrive à avoir ces minerais. Et donc le gouvernement congolais doit imposer aux acheteurs de contribuer à la modernisation même de l'artisanat en RDC. Ils doivent imposer leur contribution sociale très équitable pour se rassurer que ces villages, ils ont accès à l'énergie, ils ont accès à l'eau potable, ils ont l'accès à l'éducation, c'est construit de routes. C'est choquant que vous ayez visité même ces carrés minières, il n'y a même pas de route asphaltée. Au niveau même global de l'Afrique, je pense que l'Afrique, à un certain moment, devait être responsable. Parce que c'est étonnant qu'il n'y ait pas en Afrique un seul pays où nous pouvons voir toute la chaîne des transformations de minerais. Donc, du creusement même jusqu'à la transformation, mettre sur une table un produit fini. Ça, je pense que les pays membres d'Afrique devraient s'imposer pour discuter des opportunités plus gagnant-gagnant sur cette chaîne même des valorisations de minerais. Je pense que même la jeunesse autour de mines devrait aussi participer, devait avoir de bourses d'éducation sur la transformation de ces minerais. Au-delà, je sais que le gouvernement congolais s'est investi ces dernières années et je pense que ça devait être encore renforcé pour que le résultat soit vraiment palpable et qu'on voie le vie de nos populations être changée.
C'était Sarah Ntamboué, coordonnatrice de Change Your World à Goma, dans le Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Julienne Lusenge, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec le monde au féminin de VOA Afrique.
Merci Nathalie de m'avoir accordé cet entretien. Je salue toutes les auditrices, tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique et je salue toutes les femmes africaines et les femmes du monde.
Vous êtes présidente de SOFEPADI, Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral en République démocratique du Congo. Vous vous êtes rendue à New York où vous avez été nommée dans le classement des 100 personnes les plus influentes du monde du grand magazine américain Time. Dans un premier temps, pourriez-vous partager votre réaction avec nos auditeurs ?
Ma réaction, c'est la grande joie. Je suis très impressionnée et je suis très flattée de me retrouver parmi les 100 personnes les plus influentes du monde du grand magazine américain Time. Pour moi et pour tous les membres de SOFEPADI, pour toutes les femmes ou tous les hommes qui travaillent avec moi, de Sofepadi comme de FFC, c'est vraiment une grande joie. Pour toutes les femmes congolaises, et le 17, j'étais à Nairobi, au sommet des femmes de Grand Lac sur la paix. Donc, en pleine séance, les femmes, quand elles ont suivi, elles ont eu l'information, toutes, elles étaient contentes, elles m'ont accueillie, elles m'ont applaudi, elles ont dit, c'est notre joie. Donc, c'était la joie des femmes de la région des Grands Lacs.
Vous avez déjà remporté de nombreux prix. Vous êtes une militante des droits humains renommée dans la région des Grands Lacs. Pourquoi avez-vous été sélectionnée par ce magazine américain, selon vous?
Oui, comme vous le dites, j'ai reçu beaucoup de prix à cause de ce travail que j'ai fait au quotidien pour promouvoir la paix et promouvoir les droits des femmes et des filles, les droits des enfants, pour le respect des femmes, pour l'égalité dans mon pays, mais aussi pour faire le plaidoyer à travers le monde. Et ce travail-là m'a amené à avoir beaucoup de prix et aussi à être aujourd'hui nominée à ce grand magazine Time. C'est le travail et le dévouement, l'engagement, mais aussi le partage d'informations sur ce qu'on fait. Parce que si on les garde dans les tiroirs, on n'arrivera pas à être connu. Je partage les informations, je collabore bénévolement avec beaucoup d'organisations à travers le monde. Donc c'est tout ce travail-là qui a fait que les gens connaissent mon travail. Donc avoir ce prix, c'est le résultat de ce travail de chaque jour et de ce soutien que j'ai des autres femmes.
Est-ce que cette visibilité en dehors de la République démocratique du Congo va notamment permettre, selon vous, à faire entendre votre plaidoyer au niveau international?
Bon, je pense que ce qui va certainement ouvrir les portes à d'autres horizons où je n'ai pas encore été. Surtout l'Amérique, j'ai pas fait beaucoup de plaidoyers ici aux États-Unis. J'ai rencontré quelques membres du département d'État, j'ai rencontré quelques sénateurs. Je pense que j'ai maintenant l'occasion de venir parce qu'ils vont me connaître, ils vont connaître mon travail et quand je demanderai l'audience, je vais avoir les portes ouvertes. J'espère vraiment aussi que cette nomination va aussi ouvrir les portes des donateurs américains. D'autres qui n'ont pas encore soutenu ce travail le connaîtront et vont m'aider à faire pousser et à faire avancer le travail. Je voudrais vraiment aller dans les universités pour communiquer sur ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Donc c'est tous ces messages-là que je voudrais apporter. C'est tous ces espaces que je voudrais aller découvrir avec cette nomination.
Est-ce que les femmes aujourd'hui bénéficient de plus de protection dans l'est de la République démocratique du Congo, où de nombreux groupes armés sévissent encore contre les populations ?
Nous ne sommes pas protégés. Les femmes congolaises ne sont pas protégées. Il y a surmilitarisation de la région à cause de l'agression rwandaise. Le Rwanda commémore, mais nous, on paye les frais des génocides jusqu'à aujourd'hui. Les cas de violences sexuelles a augmenté. Nous avons 7 millions de déplacés. Les gens dorment dehors. Il n'y a pas d'abri. Les gens n'ont pas à manger. L'action humanitaire n'arrive pas à mobiliser des ressources pour nourrir tout ce monde-là. Donc, la situation est terrible. On sait pas la décrire. Et donc, il faut nécessairement que les gens qui compatissent avec le Rwanda, les États-Unis, l'Europe, doivent comprendre que nous, là-bas, on meurt. Donc, ils doivent prendre des dispositions pour faire arrêter la guerre. Les M23 doivent respecter les accords, les protocoles de Luanda et de Nairobi. Bien sûr que la RDC aussi doit améliorer sa gouvernance, doit commencer à travailler pour donner des résultats concrets pour que le pays avance.
Vous êtes également membre du Conseil du Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de torture. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, je suis membre du Conseil du Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de torture. Ce fonds aide les victimes de torture. La torture, c'est quand ce sont les États, les agents, les militaires, les policiers qui font la violence sur une personne, soit pour demander des aveux, des informations, ou parce que seulement à cause de ses opinions pour la liberté, pour les droits humains. Et donc ces victimes sont nombreuses dans plusieurs pays. Et le fonds aide ces gens à retrouver leur santé mentale, aide ces gens à les délocaliser pour la protection avec leur famille. Donc le fonds travaille pour aider ces gens pour faire avancer les droits humains et arrêter ces tortures à travers les activistes qui sont dans les pays, qui font la demande des fonds et les fonds donnent des subventions pour que ça aide ces personnes en souffrance. C'est très important que les États puissent contribuer à ce fonds. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de demandes.
Julienne Lusenge, présidente de Sofepadi en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez consacré. Bonne continuation et à très bientôt.
Je vous remercie, Nathalie, pour cette opportunité et je salue encore toutes les auditrices et tous les auditeurs. Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté Le Monde au Féminin de VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.